7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous des tchatcheuses. Comme chaque mois, je reçois trois femmes journalistes de trois continents pour commenter l'actualité en toute liberté. Le club des tchatcheuses est composé aujourd'hui de Penaï Traoré, journaliste burkinabé à la rédaction Mandingue de RFI. Inis Ogoma, Penaï.
Inis Ogoma, Emmanuel.
Ça va bien ?
Ça va.
On est ravis de vous accueillir de nouveau chez
Merci.
Les tchatcheuses. Vibeke Knoop, Rachline, bonjour.
Hi.
Hi, pardon, correspondante pour le quotidien norvégien Aftenposten. La journaliste chilienne Paola Martinez. Hola Paola.
Hola Emmanuel.
Et ça va tchatcher, bien sûr, de la nouvelle première dame Brigitte Macron, d'une série télévisée sur l'État islamique, de la rumeur sur le riz en plastique ou encore de la, peut-être de la nouvelle Miss USA. En tout cas, vous avez, je sais, dans vos besaces, des coups de cœur, des coups de gueule. Et puis en fin d'émission, on aura un reportage à Palerme, en Sicile, auprès de commerçants qui se sont regroupés pour dire non aux raquettes de la mafia. On verra où ils en sont depuis plus de 10 ans maintenant que cette initiative dure à Palerme. Et bien sûr, tous vos messages, vos commentaires à propos des analyses des tchatcheuses sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et puis, bien sûr, si vous êtes une femme journaliste, mesdames, dans votre pays, vous faites automatiquement partie du club des tchatcheuses. 33 1 84 22 71 71. Difficile de faire appeler les voisines journalistes dans leur pays, Penaï, vous avez un élément d'explication ? Trop occupées, les femmes journalistes ?
Bon, peut-être qu'elles ne sont pas à l'écoute au moment de l'émission pour écouter en direct, occupées.
C'est ça, elles écoutent la rediffusion de la nuit
voilà,
parce qu'elles veillent
voilà.
tard. Bien sûr, on vous attend en tout cas, 33 1 84 22 71 71.
Comment ça passe ?
Si tu peux me laisser aller jusqu'au bout, s'il te plaît.
Tchatcher, ça veut dire bavarder, discuter, exagérer.
Tu veux bien me répéter ça ?
Tchatcher, c'est parler avec plaisir.
Mais je veux dire, soyons clairs là, je veux dire.
Oh.
Sinon.
I beg your pardon.
Tu vas. Non, mais si.
Ce sera tout.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Et tchatcher, c'est léger, mais c'est aussi lourd parfois. Réaction, mesdames, sur l'attentat de Manchester au concert d'Ariana Grande. Au moins 22 morts, Vibeke Knoop, Rachline.
Oui, moi je commence tout de suite par un immense coup de gueule, encore, et cette fois-ci en plus avec des très jeunes, voire des enfants. Et mon coup de gueule, c'est surtout pour les réactions où, par exemple, Nadine Morano se moque du fait que le président n'a pas encore fait de déclaration ou d'autres choses de ce genre. Et puis, tous les autres qui disent « on aurait dû faire ci, on va faire ça ». Et puis, même si on fait ça, bah, c'est pas suffisant, ça ne s'arrête pas.
Mmh. Penaï Traoré.
Oui, c'est déplorable et très triste qu'on en arrive là. Et surtout que c'était un concert où il y avait beaucoup d'adolescents. Et voilà, que ça, ce soit les enfants soient les cibles aujourd'hui. Bien vrai qu'on dit qu'il va falloir s'y faire avec les attentats tout, mais c'est des morts d'hommes. À chaque fois que ça se passe, on est choqués.
C'est ça le problème.
22 morts, probablement beaucoup d'enfants.
Voilà,
pas
on
ne
peut
exactement.
Jamais s'habituer à ça. À chaque fois qu'il y en a, c'est des morts de personnes, des enfants surtout.
En tout cas, vraiment la jeunesse qui a été visée de nouveau, encore plus jeune. Ariana Grande, c'est une chanteuse à minette, comme on dit, qui faisait rêver beaucoup de jeunes filles, Paola Martinez.
Ouais, c'est ça qui est frappant, en fait, parce que moi, j'ai des ados, en fait. J'ai déjà été dans des concerts à Justin Bieber, etc. C'est vrai, une bonne ambiance très drôle, sympathique, vraiment naïf, quoi. Et là, de se retrouver en plein milieu d'un attentat alors qu'ils ont juste envie de danser, chanter, etc. Peu importe s'ils aiment ou pas la musique, hein, c'est ça. Et après, en fait, il faut s'y faire, il faut s'y habituer. Mais en fait, quand c'est des gens comme ça, on a vu un cru, en fait, après les attentats de Paris, que la vie continue, on va y aller, et on peut continuer à danser, à chanter, mais quand même, ça reste quand même quelque chose dans le mental des enfants. Est-ce qu'on peut aller à des concerts ? D'ailleurs, Anne Hidalgo, à Paris, il disait que tous les concerts à Paris, ils allaient être maintenus, parce qu'il y a beaucoup de festivals qui démarrent à la fin du juin.
Quel poids d'être un artiste aujourd'hui, de se produire en concert, hein, on va finir par se dire.
C'est vrai, et après tous les messieurs de sécurité autour. Quoi,
on a l'impression que les cibles deviennent de plus en plus vicieuses, parce que là, il y avait vraiment du point de vue du terroriste, il y avait une foule immense, beaucoup plus grande que ce qui a été attaqué jusqu'à présent. Il y avait une gare à côté et voilà.
Mesdames, on va passer à un autre sujet parce que je sais que vous souhaitez en discuter. Vous connaissez donc le quartier de la Chapelle à la sortie de Paris. Ça touche le 18e arrondissement, entre autres. Vous avez vu les réseaux sociaux en effervescence depuis plusieurs jours. D'ailleurs, les médias classiques ont tardé à relayer ces débats, cette polémique à propos d'une pétition lancée par les habitantes du quartier pour dénoncer la situation. Un quotidien de plus en plus oppressant pour les femmes qui seraient sifflées, chassées par les hommes dans la rue. On parle d'insultes, on parle de jets de cigarettes allumés dans les cheveux, on parle d'une vieille dame de 80 ans agressée sexuellement alors qu'elle rentrait dans son immeuble, désormais retranchée dans son appartement. La rue ne serait plus pour tous, l'espace public ne serait plus pour tous dans ce quartier-là.
C'est même pas possible. Décidément, ça va être encore un coup de gueule. Mais c'est incroyable que moi, j'habite juste à côté. J'habite à Barbès, donc c'est vraiment pas loin. Et à Barbès, il n'y a pas encore ça, mais parfois, c'est pas très loin. Il y a des endroits où c'est vrai que c'est pas agréable d'aller parce qu'il y a des remarques, il y a toute gentillesse envers les femmes, envers les femmes d'un certain âge ont disparu. C'est maintenant, on est une espèce de... Il y a des frictions permanentes. Et puis, moi, par mon travail, j'ai été amenée à aller là plusieurs fois dans un quartier mondialement connu pour ce genre de problème, à Molenbeek, en Belgique, où il y a effectivement, il y a des petits cafés, il y a des trucs qui ne sont pas désagréables, mais où les femmes ne peuvent pas aller du tout, voilées ou pas.
Mais c'est vrai que c'est une situation qui dure depuis certains temps. Moi, je n'ai pas souvent aussi à vélo, donc je n'ai personnellement, je n'ai pas été victime de quoi que ce soit. C'est vrai qu'il y a une forte densité masculine, essentiellement, on ne voit pas de femmes.
Quand on est une femme, on se sent inconfortable, comme disent les Américains.
Oui, je pense qu'il y a des fois où on peut changer, notamment des trottoirs, etc., sentir un peu menacé. Moi, ce qui m'a dérangée dans cette affaire, principalement, c'est l'amalgame, en fait, parce que dans le reportage qui a été publié sur le Parisien, c'est là où c'est parti, on met les vendeurs à la sauvette, les dealers et les migrants dans la même ligne. Et ça, je trouve que c'était inadmissible. Oui. Une chose, c'est le harcèlement des rues des femmes qui vivent au quotidien, et il faut savoir que ce n'est pas seulement à la Chapelle, c'est aussi à Belleville, c'est aussi dans le 12e, c'est aussi partout, même sur les quais, il y a des harcèlements pour les femmes, partout dans le métro, où on peut trouver. Si on est enfin une femme à Paris, il faut être toujours vigilante, parce que c'est une ville grande, c'est une ville dans une ville hétérogène. Donc, il faut faire très attention.
Vous n'allez pas faire venir les touristes. Hein,
voilà. Mais ce qui m'a dérangée profondément, c'est qu'il faut tout de suite... Là, il y a la récupération politique qui arrive tout de suite parce qu'il y a les élections législatives qui sont là. Donc, il y a une campagne aussi qui s'est faite. Et dès que les gens ont vu les projecteurs, on va mettre les migrants et les dealers dans les mêmes sacs. C'est inadmissible et indécent de faire ça.
Alors, finalement.
Mais moi, je pense qu'il y a une certaine réalité qui est là, mais ça existe depuis longtemps, apparemment. Depuis un bout de temps déjà.
Oui, ça existe depuis longtemps.
Voilà, depuis longtemps. Et c'est maintenant. Ça ressort.
Comment vous sentez quand vous êtes dans ces quartiers-là? Bon, quand il n'y a pratiquement que des hommes.
Bon, moi, personnellement, je n'y vais pas souvent, mais il m'est arrivé de passer là-bas. Mais c'est vrai que quand tu passes, tu vois des attroupements d'hommes qui sont là, des regards sur toi. Ben, je n'ai pas été victime de ça, mais tu sens en tout cas que voilà, tu passes quelque part, tu as l'impression d'être pas bien la bienvenue. Mais moi, je pense que le problème est là depuis longtemps. C'est maintenant que ça ressort, comme Paola l'a dit. Il y a les élections qui arrivent et il y a un peu de récupération politique des élus là derrière. Et aussi l'amalgame qu'il y a du fait qu'il y a des migrants. Il y a un centre des migrants qui a été ouvert à côté.
Est-ce que la pétition,
et les gens, ils font l'amalgame entre les deux.
La pétition, c'est bien ou pas des habitantes?
Les pétitions, aujourd'hui, ça est devenu le faire à tout faire.
Internet,
on peut dire
facile,
Internet,
ouais.
C'est facile. 4000 signatures, bon, c'est super. Mais après, notamment, il faut voir. C'est en fait la pétition. Elle est bien parce que c'est vrai que moi, si je serais habitant de ces quartiers, peut-être aussi j'aurais signé cette pétition, bien entendu. Mais ce qui me dérange, c'est qu'après, on fait toutes sortes de commentaires, mais complètement indécents et indignes par rapport à cette mélange, notamment des populations qui vivent dans ces quartiers-là. Et aussi, c'est une cache-misère parce que ça arrive depuis certains temps, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Paris gentrifié, qu'on appelle. Hein. Il y a des quartiers très jolis, très aseptisés, en bourgeoisés, mais il y a des quartiers qui sont complètement laissés à l'abandon. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les autorités publiques? Ah oui, on va mettre des flics et on va... Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a pas d'accompagnement social, il n'y a pas d'éducation aussi pour les filles et pour les garçons dans les écoles. Donc,
justement, Paola, je trouve que la récupération politique elle est double. Elle est ce que nous avons dit au point de vue des élections et tout ce qu'on a dit, mais il y a aussi une récupération politique de la part de certains islamistes. Une pression, parce que c'est politique plus que religieux, une pression sur les femmes. C'est-à-dire que si tu te voiles et si tu te promènes en tenue musulmane correcte, tu ne serais pas embêtée. Donc voilà, il y a une terrible pression.
Ça veut dire que les femmes, finalement, d'une certaine manière, malgré elles, se retrouvent islamophobes pour défendre leurs droits et leur confort sur le trottoir de Paris, ou pas, finalement? C'est ça que vous voulez dire, que vous sentez prise en tenaille?
C'est trop loin la question. Je suis absolument pas d'accord avec cette...
Non, c'est une question que je pose.
Ah oui, mais non, mais je pense absolument pas que ça soit le cas.
Penaï?
Non, pas forcément. Mais il y a d'autres endroits dans Paris, comme elle l'a soulevé. Je pense que ça, on l'a vu dans les articles, ça se passe dans des quartiers qui sont un peu délaissés. C'est dans des endroits où il n'y a pas eu peut-être des mesures, des réformes qui sur le long terme pour savoir ces gens qui se regroupent là, ces jeunes-là qui se regroupent là, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils viennent faire là en longueur de journée. Moi, je pense que voilà.
C'est surtout des dealers, on va le dire. Ce sont surtout eux qui sont à l'origine du problème. Et tant qu'il
pourquoi
n'y a
pas... Pourquoi s'en prendre aux femmes dans ces cas-là?
Il faut s'en prendre aux dealers et les chasser du quartier, c'est tout.
Bon, vous restez avec nous, Vibeke Knoop-Racheline. Vous souhaitez revenir sur les attaques sexistes contre Brigitte Macron, nouvelle première dame en France. Il a 39 ans. Elle en a 64, 24 ans d'écart, pas dans le sens le plus habituel. Et de quoi déchaîner ceux qui sont payés pour nous faire rire.
Tous les enfants sont amoureux de leur maîtresse. Non, moi c'est vrai, c'est ma copine, c'est vraiment ma maîtresse, quoi. On vit ensemble, elle s'appelle Brigitte.
Elle lui a tout appris à faire ses lacets, le tourniquet bulgare, la brouette, voir les trois en même temps. En retour le samedi, il l'emmenait chez Damar, puis rentrait avant 18h pour ne pas rater question pour un champion.
Transformateur, ouais. Napoléon Macron. Réformateur, ouais. Napoléon Macron. Jeune, vous l'avez dit, Napoléon Macron, il y a beaucoup de points communs. Bon, ils sont gérontophiles tous les deux. Il y a pas mal de points communs entre eux.
Alors question, est-ce qu'on va avoir ce genre de blague pendant 5 ans?
J'espère que non, parce que je les trouve vraiment nuls. Et surtout la dernière qu'on a entendue, gérontophile, enfin quand même, il ne faut pas exagérer. On ne dirait jamais ça, par exemple, de Donald Trump avec sa femme qui a exactement le même écart d'âge, dans l'autre sens. Oui, donc j'espère que ça va s'arrêter. Et ce qui est curieux, c'est qu'en France, surtout les humoristes et ceux qui se moquaient, c'était plutôt dans... un sens négatif, alors qu'à l'étranger, non. En Norvège, par exemple, on disait plutôt « Ah, ben c'est plutôt bien, ça donne des chances aux femmes d'un certain âge, etc. » Donc, c'était plutôt...
Oui, c'était un humour bon esprit, finalement.
Oui, et une curiosité, voilà, c'était plutôt sympathique.
La une de Charlie Hebdo, dessinée par Rhys, Macron pose sa main sur le ventre rebondi de son épouse, et avec le titre « Il va faire des miracles ». Hein, donc, elle représentée en épouse enceinte. Vos compatriotes norvégiens ne se sont pas émus de cette
humour-là? Moi, je me suis émue et j'ai posté ça sur mon profil Facebook, et je pensais avoir plein de réponses dans mon sens. Eh ben non, c'était plutôt dans l'autre sens, et on peut se moquer de tout, et on peut, c'est de la satire française,
oui, mais
il
là,
faut savoir ce que c'est.
Mais la moquerie, elle arrive après des centaines de mots absolument déplacés, ridicules, voire indignes. Et ce que je trouve incroyable, qu'au XXIe siècle, encore les sujets, la différence d'âge entre un homme et une femme, dans l'occurrence une femme plus âgée qu'un homme, soit un sujet de conversation, tout ça... horrible. La société l'a vachement progressé pour d'autres choses, et pourquoi pas celle-là, en fait. Et après aussi, c'est vrai que dans tous les... Quand on parle des gens...
Ça reste des cas de figure rares,
dans la société. Ça relève un peu de quoi perpétuer les clichés sur la liberté sexuelle en France, déjà. Quand même,
moi, je reviens sur la une de Charlie. Moi, je ferai partie de ceux qui ont commenté ton post sur Facebook, disant, on ne peut pas rire de tout, parce qu'on a vu des unes passer de Charlie, où les gens, ils se sont émus, ils ont dit, c'est un journal satirique, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Donc, pour moi, c'est vrai, c'est qu'ils ont mis, par rapport au contexte, Brigitte Macron, qui est plus âgée que son époux et tout, c'est sur ce sujet-là, il ne faut pas faire de la satire, ou il faut juste dire maintenant, comme c'est Charlie, on doit leur permettre de tout faire. Moi, je pense que la façon dont ça a commencé, Charlie a le droit de faire la satire sur tout le sujet. Bon,
oui, mais quand c'est accompagné ça, des, comment j'ai dit, d'une série...
Avec l'histoire de Charlie Hebdo que l'on sait,
voilà,
évidemment,
qu'on sait. Et puis,
on doit leur laisser ce droit-là.
Je pense que ça ne doit pas choquer les gens que ça vienne de Charlie, en fait, pour
mais ce dessin-là, particulièrement, pour le dire crûment, il est en dessous de la ceinture.
C'est clair.
Parce que ça fait allusion au fait que, justement, Mme Macron ne pourra plus jamais avoir d'enfants. Donc, je trouve que c'est méchant, voilà.
La presse étrangère, ceci dit, globalement, notamment américaine, élogieuse, respectueuse dans son ensemble, à propos de Brigitte Macron. Elle est décrite comme femme moderne, élégante, nouveau look pour la France. On n'a que le Guardian qui s'étonne de nouveau de la différence d'âge des deux époux. Je cite, « Ses soutiens ne veulent-ils pas admettre la bizarrerie de la chose, mais aurait-il été aussi bienveillant si Emmanuel avait été prof de 40 ans et Brigitte une étudiante ?» de 15 ans. Bon, c'est toujours le mythe de l'amour prof-élève qui
oui,
revient.
Mais il
paraîtrait que ça serait très français, on se demande bien pourquoi.
Oui, bon, ça c'est une chose, mais finalement, si on regarde la situation, si on sort des caricatures et des humoristes et qu'on regarde chez les Français en général, ils sont plutôt contents, je crois. Ils la trouvent bien. Une ancienne maîtresse d'école, c'est bien.
Et plus puis... prof de lettres et de,
oui,
de latin.
Prof de lettres, pardon.
En lycée. Et dans un lycée très prestigieux
oui,
à Paris.
Et puis, voilà, c'est prestigieux. Donc, moi, je crois que... Et puis, elle est populaire.
Alors, effectivement, vous le soulignez, il y a un autre couple présidentiel, 24 ans d'écart, Donald et Melania Trump. Effectivement, pas de
on
remarques sexistes.
On ne peut pas comparer.
Ouais.
Et encore plus, ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'à l'investiture, les gens ils se sont plaints qu'elle a mis une jupe trop courte. Mais moi, je pense que ça lui va bien. Elle est libre de porter ce qu'elle veut, malgré son âge.
Mais par contre, les caméras de télévision ont capté hier que Melania a refusé de donner la main à son mari hier, Israël. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à venir.
Paola Martinez, sans transition, vous êtes admirative d'une femme qui cartonne dans un livre sur les plaisirs de la solitude féminine. Ça cartonne sur plusieurs continents, je crois qu'elle est mexicaine.
Isalia Candela.
Et largement plus de 40 ans.
Oui, là, je l'ai interviewée, je lui ai fait un portrait pour un journal en France. Justement, j'étais étonnée parce que j'avais eu son livre, j'ai même l'acheté parce que ça m'intéressait beaucoup les sujets. Elle s'appelle Isalia Candela, elle a à peu près plus de la quarantaine et elle a commencé à dessiner en fait des femmes très, dans des positions un peu érotiques aussi, sensuelles, chez elles, etc. Ça, tout est parti d'un jeu sur Internet. Tous les jours, elle postait un dessin parce qu'elle est dessinatrice.
Et ça cartonne.
Ça a cartonné, elle a fait un petit livre et après, elle s'est rendue compte en fait que finalement, ces dessins des femmes qui étaient très très contentes et très fières d'assumer une solitude après la quarantaine. Attention, c'est pas juste les jeunes.
Une solitude, ça veut dire pas de conjoint avec enfant,
pas de conjoint, sans enfant, peu importe. C'est vraiment, et surtout dans un continent où le fait de se marier tôt et avoir des enfants, c'est la loi en fait.
Sur le continent sud-américain.
Notamment au Mexique, c'est un pays qui est très traditionnaliste sur sa question-là.
Alors pourquoi ça cartonne finalement?
Ça a cartonné
sur le continent sud-américain.
C'est justement parce qu'elle a relevé un tabou. Le fait que, notamment, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne veulent absolument pas rentrer dans ces stéréotypes de la femme mariée avec des enfants à 40 ans. Et le fait aussi d'assumer et de ne pas être amère, ni tristunée, ni vieille fille parce que vous n'êtes pas mariée ou vous n'avez pas de couple stable. Attention, il y a des amoureux qui arrivent et tout ça. Couple stable avec des enfants, à passer la quarantaine. Donc, elle a un peu relevé cette question de l'air du temps d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui revendiquent le fait de vivre seule, d'assumer une carrière professionnelle avant d'avoir une carrière maternelle.
Je crois que le livre cartonne également en Suède.
Oui, en Allemagne aussi.
Oui, parce que il n'est pas encore traduit en norvégien ou publié en norvégien, je crois, mais en Suède, je crois qu'effectivement les femmes de cette tranche d'âge se sont reconnues dans le livre aussi.
Tout à fait.
Je dirais quand même que justement, c'est peut-être juste pour ces femmes-là, parce que pleurer dans les chaumières, moi je me suis retrouvée veuve il y a un an et je ne trouve pas que ça soit si sublime que ça, la solitude.
Oui, alors est-ce qu'il y a il y a de la communication là-dedans, dans cette façon de voir les choses? Vous restez avec nous, les tchatcheuses, les voisins, les voisines, vous pouvez aussi nous appeler, 7 milliards de voisins. On se retrouve dans 3 minutes, juste après le flash et d'autres sujets, d'autres commentaires.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. C'est le club des tchatcheuses aujourd'hui avec Paola Martinez, journaliste chilienne, Penaï Traoré, journaliste burkinabé à la rédaction Mandingue de RFI, Vibeke Knoop-Rachlin, correspondante pour le quotidien norvégien Aftenposten. Vibeke, vous vous interrogez sur une toute nouvelle série télé qui s'appelle Black Crows, c'est-à-dire Corbeau Noir, qui porte sur la vie sous l'État islamique, qui sera diffusée en Arabie Saoudite pendant le Ramadan.
Pas seulement en Arabie Saoudite.
En tout cas, en
une
arabe.
Chaîne arabe,
c'est
oui.
Ça, hein, c'est oui. Une chaîne arabe, mais elle est coproduite par le groupe NBC, qui oui. Est le principal groupe de médias arabophones, qui est un groupe saoudien, si je ne me trompe pas. Ou en tout cas, un groupe basé à Dubaï. Hein. Je ne sais plus s'ils sont saoudiens ou pas. En tout cas, c'est un groupe audiovisuel et en coopération avec des auteurs et producteurs américains. De
oui,
série. Donc,
oui, voilà. Je trouve que, ça m'a un peu intriguée parce que déjà, c'est une série sur les atrocités de l'État islamique, certes, mais en même temps, tous les gens qui finissent par adhérer ou travailler ou faire partie de l'État islamique sont présentés comme des victimes. Donc déjà, je trouve ça un peu curieux. Deuxièmement, ce que je trouve très très bizarre, c'est pourquoi projeter cette série pendant le Ramadan qui commence dans 3 jours.
Oui, qui est une série quand même assez violente.
Mais
hein.
Oui,
moi, j'ai
très
pas
violente.
Attentats, suicides, viol, esclavage...
Mais oui.
Ça relève pas vraiment de la sociologie.
Moi, ça m'échoque qu'il y ait un film sur l'État islamique. Ça m'échoque qu'on fasse une série sur
Pour
moi.
C'est la vie. Une fiction, on est bien d'accord.
Oui, c'est une fiction, mais moi, je pense qu'il n'y a pas lieu d'être, quoi, de donner encore plus de visibilité à ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Donc, genre, on montre un peu, comment sera la vie sous l'État islamique s'ils arrivent à s'emparer.
Je crois que ce n'est pas une promotion.
C'est pas une promotion, mais moi, je pense que ça n'a pas lieu de faire une série.
L'objectif affiché, c'est de s'attaquer à la propagande extrémiste de Daesh.
Et c'est pas bête d'attaquer Daesh par la télévision, parce qu'ils utilisent tellement l'audiovisuel eux-mêmes pour leur propagande que c'est pas une mauvaise idée. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Mais la suite, bon.
Ouais, moi je trouve c'est très délicat parce que notamment je suis d'accord avec toi qu'il peut en effet être, finalement, même s'il va dénoncer énormément de choses de Daesh, il peut aussi devenir de l'apologie de Daesh, ce qui est arrivé avec des séries, par exemple, complètement dans notre contexte, la série Narcos qui mettait en scène Pablo Escobar.
C'est un parallèle intéressant.
Voilà, c'est un parallèle intéressant. Bien entendu, c'est une fiction basée sur des faits réels parce que le personnage, il a vraiment existé, il a vraiment fait tous les attentats qui lui sont imputés dans cette série. Et ce qui est étonnant, c'est que dans l'imaginaire des gens, en fait, qui voient la série, ils disent « Ah ouais, mais il était plutôt sympa, le mec. »
Ça renforce une autre image.
Exactement. Voilà. Et c'est assez étonnant
de voir
que finalement...
Ça risque d'arriver là aussi. Parce que ce sont des acteurs arabes qui jouent dans la série et ils risquent effectivement, même s'ils sont très méchants, qu'ils tuent, etc., ils risquent effectivement de devenir des héros.
En tout cas, une série comme ça, pendant le mois de Ramadan, c'est en effet assez surprenant qu'il y ait tout de même un moment de recueillement, de paix, de fraternité et certainement pas de violence. Penaï Traoré, retour sur la polémique du riz en plastique. C'est une rumeur ancienne qui refait surface régulièrement dans l'eau de cuisson, je dirais, du Nigeria au Sénégal, au Burkina Faso, en passant même par l'Indonésie, même aux États-Unis, on retrouve trace de cette rumeur.
Oui, ça revient chaque année. La dernière trace, je crois que j'avais vu, ça remonte à 2010. Et presque chaque an, ça revient et les gens, ils tombent dans le panneau. Et le fait que ça revienne chaque fois, c'est ce qu'on appelle...
Là, on a une ménagère régulièrement qui va nous montrer un petit morceau de plastique dans son riz de cuisson et posté sur Facebook. Hein.
Oui, elle fait une expérience avec le riz qu'elle a cuisiné et elle fait l'expérience, elle cuit le riz, elle fait une boule et elle jette la boule au sol et elle se dit ça ne se casse pas, donc c'est du plastique. Ou elle met quelques grains de riz sur le gaz, là ça brûle et on dit que c'est du plastique. Donc ça c'était au Sénégal, au Burkina c'est arrivé, la dame qui a lancé la rumeur, elle a même fait une démonstration à la télévision nationale dans le journal et quelque part aussi je trouve que les journalistes tombent dans le panneau sans faire des recherches. Et s'ils avaient fait des recherches, ils allaient voir que c'est une rumeur qui revient chaque année, et dans différents pays.
À tel point que les autorités, burkinabées sénégalaises, s'en sont mêlées, ont démenti,
des stocks de riz dans les magasins pour faire des contrôles. Et il s'est avéré que ce n'est pas du riz en plastique, ça peut être de vieux stocks, du riz qui est très ancien et qui revient sur le marché, mais ce n'est pas du riz en plastique. Donc pour rassurer les gens et la Ligue des consommateurs au Burkina, a même même envoyé un échantillon au laboratoire pour faire des analyses également. Ouais. Mais la rumeur continue d'enfler.
J'ai lu que les polymères, ces fameux petits morceaux de plastique, coûteraient de toute façon plus cher que du riz lui-même. Donc, quel serait l'intérêt? Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même une rumeur qui témoigne d'une méfiance croissante à l'égard des produits chinois, voire même des produits tout court, mais beaucoup des produits chinois sur le continent africain.
Non, oui, mais comment contrôler l'arrivée des produits chinois, les produits qui arrivent en masse et très moins chers, moins coûteux pour les populations? Ça vient de la Chine, des contrefaçons, produits alimentaires, vestimentaires et tout. Moi, je pense que le problème, c'est comment contrôler cette arrivée-là des produits en provenance de Chine. Et c'est sur ce plan-là, il faudrait peut-être mener un peu plus la bataille pour faire plus de contrôle sur ce que les gens consomment, sur le plan alimentaire.
C'est vraiment une attente des consommateurs maintenant.
C'est même pas que le riz, on parle aussi du poisson, le tilapia qui vient de Chine, qui serait pas du vrai poisson, du poulet, qui serait pas du vrai poulet, tout ça, on dit ça vient de Chine, quoi. Donc, moi, je pense qu'il y a véritablement là un souci de contrôler ce qui vient d'ailleurs, qui rentre dans nos pays.
La légende urbaine, effectivement, peut s'épanouir quand il y a des zones d'ombre, Vibeke.
Oui, et puis c'est probablement quand même, d'après ce que j'entends, une réaction contre les produits chinois qui ont inondé l'Afrique maintenant depuis, je sais pas 15 ans, quelque chose comme ça, et qui sont bon marché et qui sont pas de qualité. Donc, c'est peut-être ça aussi.
Bah peut-être que les gens n'en veulent plus apparemment.
Oui, en fait, et en même temps, c'est les dérives de la mondialisation, il faut le dire, parce qu'il n'y a pas qu'en Afrique que les produits chinois ils ont inondé les commerces. Et au Chili, principal partenaire économique de la Chine en Amérique latine, et partout, en fait, il y a toujours une méfiance vis-à-vis des produits qui sont faits avec des qualités douteuses, parce que les faits, c'est qu'il faut vendre, vendre, vendre. Est-ce que, j'ai une question quand même. Je me suis dit que peut-être c'est les gens du Bern... Il y a quelque chose de vérité derrière. Est-ce que les autorités n'iraient pas aussi en train de peut-être décacher certaines zones d'ombre dans cette commerce avec la Chine? Parce qu'on ne sait jamais.
Elle va renforcer la rumeur,
moi,
Paola.
Ça m'étonnerait, moi, que ce soit les autorités. Parce que là, ce n'est pas quelque chose qui était caché, on essaie d'étouffer. Non, tout le monde est au courant. Maintenant, moi, je pense qu'ils n'ont pas intérêt à vouloir couvrir cet aspect. Et en plus, ce n'est pas dans un seul pays. Au Sénégal, ils ont fait les autorités s'en sont mêlées, ils ont fait des contrôles. Il s'est avéré que c'est pas du riz en plastique. Au Burkina, ils ont fait pareil, c'est pas du riz en plastique. Au Nigeria, pareil.
Mais ça révèle la vraie question des produits en fait qui sont sur le marché aussi, provenant de la Chine quand même.
Oui, mais en même temps, il faut noter que tout ce qui vient de la Chine, tout n'est pas mauvais, mais le fait que tout ce qui arrive en Afrique, ce sont les produits incriminés qui sont de mauvaise qualité.
Paola Martinez, après la Mexicaine célibataire qui vous a fasciné, vous avez un autre modèle, c'est la nouvelle Miss USA, évidemment la démensuration de rêve, elle est sublime et en plus elle défend la cause des femmes.
So as a woman scientist in the government, I've liked to lately transpose the word feminism to equalism. I don't really want to consider myself. Try not to consider myself like this, like die hard, you know, like oh, I don't really care about men. But one thing I'm going to say is though, women, we are just as equal as men when it comes to opportunity in the workplace.
Femmes, nous sommes les égales des hommes, particulièrement dans le monde du travail, a expliqué cette scientifique dans le nucléaire. C'est ce qui s'appelle une bombe atomique.
Oui, bombe atomique, mais en fait, il a fait la partie jolie de l'iceberg parce qu'il a fait aussi des commentaires sur la santé qu'ils ont pas du tout été apprécié par les gens, en fait.
Et sur la sécurité
sociale, en disant que c'était pas un droit, c'était un privilège. Parce qu'elle travaillait, parce qu'elle avait finalement gagné le droit de se faire soigner à cause de ça, au même temps qu'Obamacare qui est mis en question, carrément effacé avec les gouvernements de Trump. Pourquoi j'ai voulu parler d'elle? Parce qu'il y a deux choses. D'une part, je me suis dit, super, une fille qui n'est pas seulement vue comme un super démonstration, jolie, comme tout, magnifique et tout, qui a aussi un petit cerveau qui sert à quelque chose. Moi, je déteste les concours de beauté parce que j'ai tout, notamment qu'on met.
Vous venez d'un continent où ça se pratique beaucoup.
Tout
on va
à
dire.
Fait, qu'on met les femmes enfin sur scène comme des femmes objets, mais en même temps, je me suis dit, bien, écoutez, cette fille-là, elle, quand même, c'est un symbole d'une nouvelle ère. Elle est jeune, elle est diplômée, très diplômée même. Elle est scientifique, alors que dans la science, les femmes, elles se font très rares partout dans le monde, pas seulement en Amérique latine, sinon forcément aussi.
Et elle ne se défrise pas les cheveux.
Et elle se défrise pas. Elle a refusé de se défriser les cheveux. Ouais. Et en même temps, elle a osé, malgré son faux pied, parce qu'en fait, son faux pas, parce qu'il a après essayé de rectifier le tir en disant que oui, en effet, c'est aussi un droit. Mais quand même, elle a osé de dire des choses qui n'est pas l'habitude, on a l'habitude d'entendre dans certains concours de beauté. Et en même temps, je mets ça en parallèle, j'ai juste fini, avec un concours de beauté au Chili, tout petit, dans un petit village, on met les femmes vraiment, ils font des femmes objets qui sont là juste pour régaler la vue des messieurs qui vont dans un salon des mines. Donc j'ai tout ça quand même indécent d'encore mettre les femmes sur la scène pour juste les regarder comme ça par ses mensurations. Au moins Cara, elle a fait quelque chose, elle a fait parler d'elle, elle est black, dans un continent
encore. Mais on n'a pas donné son nom, alors on redonne son nom.
Ah, s'appelle Cara Maculoc. Pardon si je prononce mal. Voilà.
Non, mais je crois que pour gagner, je ne participe jamais, hein, ne vous croyez pas ça, mais je crois que pour gagner les concours de Miss maintenant, il faut avoir quelque chose, des diplômes, une formation, un métier, en plus d'être jolie. En tout cas, au niveau international, Miss Univers, etc.
La française, c'est sûr qu'ils ont des choses.
Oui.
Non,
oui.
Mais c'est la question. Ils ont toujours des choses à dire, ils ont toujours un métier derrière. Mais le concours en soi, il ne met pas ça en avant. Et ça, ce qui quand même, cette fille, encore une fois, elle brise ses tabous comme quoi on peut dire des choses intéressantes dans un concours.
Mais peut-être que cette fille-là, qui visiblement parle beaucoup et parfois un peu trop, peut-être qu'elle aurait dû se lancer plutôt dans la politique que dans les Miss.
Peut-être que ça viendra. Penaï Traoré, alors encore une histoire de fille. Vous souhaitez revenir sur les fiançailles de la princesse Mako au Japon avec un roturier, donc pas noble. Et elle perdrait son titre de princesse si elle l'épousait.
Exactement, Emmanuel. Moi, ce qui m'a interpellée sur ce sujet-là, c'est le fait que c'est une femme et elle va perdre le titre impérial, le titre de princesse. Elle ne sera plus appelée la princesse Mako. Voilà, elle sera appelée Madame Komuro et va perdre le titre impérial alors. Pourtant, si c'est les hommes, ils perdront pas le titre. Et aussi, ce qui m'a interpellé...
Oui, en effet, parce que l'empereur Akihito et ses deux fils ont épousé des roturières aussi, qui font partie de la famille impériale, et ils ne perdent pas leur titre.
Oui, et ce qui m'a interpellé aussi, c'est le fait que, elle va épouser un roturier, elle va perdre son titre, mais elle va rester, ce monsieur-là qu'elle a rencontré depuis ses études, ils ont étudié ensemble et tout, et elle va...
Keiko Muro, roturier télégénique de 25 ans. Ah, c'est une belle histoire.
Oui, c'est une belle histoire, mais je pense qu'en Europe aujourd'hui, il y a des monarchies partout. Pourquoi encore on n'accepte pas que les princesses épousent un roturier? Si elle épouse un roturier, elle garde...
Ah, notre chercheuse, elle aime les histoires de princesses. Hein,
En Norvège, on peut gagner un titre de princesse si on épouse le prince. Et on peut aussi perdre le titre. C'est ce qui vient de se passer avec une princesse en Norvège.
Oui. Ceci dit, effectivement...
Parce qu'elle fait trop de business.
Moi, je me dis pourquoi encore il y a des monarchies dans le XXIe siècle.
Mais peut-être que c'est mieux ça, dans certains endroits. Les pays où il y a des présidents, des élections.
Mais Kate et le prince William, c'est une formidable aventure marketing.
Une belle histoire.
Oui, aussi. Et Laetitia et le prince en Espagne aussi. Hein. Laetitia, journaliste, elle rencontre...
Et les reines.
Les reines, maintenant les reines.
Le futur roi, elle rencontre le futur roi et devient reine.
Bon, vous restez avec nous les tchatcheuses. Reportage dans quelques instants en Sicile, à Palerme très précisément. On va voir un petit peu où en est la mobilisation des commerçants contre la mafia. Ce sera juste après Ariana Grande, hommage aux victimes de Manchester. Good, gotta blow your mind. Yeah. Bang, bang, bang.
it's Frizz in the puddle, it's Nikki full throttle, it's oh, oh. Swimming in the crowd, we winning in the lotto, we dipping in the pot of blue flow. So, getting so good, it's dripping, I don't would get a ride in an engine that could go. Batman robbing it, bang, bang, cocking it, Queen Nikki dominant, prominent. It's me, Jesse and Ari, if they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging, phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singing. G to the A, to the N, to the G,
Après cet instant girl power, Ariana Grande, Bang Bang, il y a aussi Jessie G et puis aussi Nicki Minaj qui chante. Reportage maintenant en Sicile à Palerme, Palerme tristement nommée capitale de la mafia. Est-ce que vous connaissez le pizzo toutes les trois, mesdames?
Non.
Pizzo, en fait le pizzo c'est le nom qui est donné aux raquettes exercées par la mafia en Sicile. Concrètement c'est de l'argent qui est impunément taxé chaque mois, plusieurs fois par an, à une très grande majorité des commerçants en Sicile, en fonction de leur chiffre d'affaires, bien sûr. Un racket qui rapporterait plus d'un milliard d'euros par an à la mafia. Et il y a 13 ans, un mouvement citoyen est né timidement pour s'élever contre cette pratique jugée indigne. Un groupe d'étudiants de Palerme a pris l'initiative de créer Addio Pizzo, donc au revoir racket, une association qui a pour objectif de tisser un réseau de commerçants qui refusent de payer le pizzo et qui l'affiche clairement sur les vitrines de leur magasin. Alice Milo est allée pousser la porte d'une des boutiques emblématiques du centre-ville de Palerme.
Buongiorno.
Je m'appelle Guido Agnello. Ici, on est dans notre magasin qui s'appelle la Coppola Storta. La Coppola, c'est un béret qui, au départ, était porté seulement par les nobles. Puis, petit à petit, les bourgeois, la classe moyenne, ont eux aussi pu le porter, jusqu'au moment où il est devenu le symbole du pire phénomène de la Sicile, la mafia. Les mafieux, eux, le portaient penché sur la tête, et c'est devenu leur symbole. À tel point qu'il suffisait que quelqu'un porte une Coppola pour être considéré comme un mafieux. Et donc notre pari à nous, avec ce commerce, c'est de réhabiliter ce béret pour qu'il ne soit plus associé à la mafia.
L'autre particularité de votre boutique, on peut le voir sur le comptoir et sur la caisse du magasin, c'est que vous avez donc un autocollant qui est très visiblement affiché. Addio pizzo, pago chi non paga.
Ce n'est un autre nella vetrina, come vedi.
Oui, et il y en a un autre, là, sur la vitrine. Vous pouvez le voir.
Far parte addio pizzo.
Nous, on a fait partie des premiers commerçants à adhérer à Addio Pizzo. Pour nous, c'est la plus belle révolution que la Sicile ait pu connaître. Avant cela, on a eu des problèmes avec la mafia. On avait ouvert une autre boutique au centre de Palerme. Le lendemain de l'ouverture, on a trouvé de la colle forte, de la glu sur la serrure. C'est typique de la mafia. C'est le premier message qu'il t'envoie pour te dire « tu payes, parce que sinon demain, ce sera pire ».
Subito, altrimenti la prossima volta ti facciamo più danno.
Comment vous avez réagi? Qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là?
Du coup, on a immédiatement mis l'autocollant Addio Pizzo sur la vitrine. On avait prévu de le faire, mais on n'avait juste pas eu le temps de s'en occuper. Et bien sûr, on a aussi porté plainte auprès de la police.
Si vous n'étiez pas Addio Pizzo, combien la mafia vous demanderait tous les mois?
Ça dépend de l'activité que vous avez, de la taille du magasin. On paye au mètre carré. Ça peut aller jusqu'à des milliers d'euros par an.
Mais ici, on est dans une rue qui est très commerçante. Hein. Vous êtes dans une petite rue piétonne du centre-ville de Palerme. Il y a des boutiques. En face, on voit une boutique de bijoux. Il y a des restaurants, tout du long, etc. Vous êtes la seule boutique de la rue à être Addio Pizzo?
Non, en face, vous avez Roberto qui vend des bijoux. Et il y a aussi un bed and breakfast. De plus en plus de boutiques adhèrent. Mais je sais qu'il y en a encore beaucoup qui payent, mais beaucoup moins qu'avant.
Est-ce que tout ça, ça signifie pas que la mafia s'est affaiblie?
Oui, c'est une certitude, mais elle n'est pas du tout morte.
Non è finita, ma è indebolita.
Allora, stavo dicendo, i modelli sono due. O questa, che è quella più conosciuta al mondo come Coppola siciliana.
È la più bellina questa.
Vous avez choisi le modèle vert après avoir essayé plusieurs modèles.
Oui, c'est élégant, sportif.
Vous êtes sicilienne?
Non, je suis du nord d'Italie.
Ici, cette boutique, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une boutique qui a la particularité d'être Adio Pizzo. Donc, il y a un label là qui est sur le comptoir.
Ok, ok.
Donc, ça veut dire qu'ils font partie du mouvement où ils ne payent pas le pizzo.
Oui.
Est-ce que vous connaissez ce mouvement?
Oui, moi, je suis à 100% d'accord. Je pense que la Sicile, les gens, ils ont le droit de travailler et de ne pas payer à la mafia. Je suis toujours attentif pour ces choses. J'ai beaucoup de sensibilité pour ça.
Oui. Vous choisissez des commerces anti-pizzo?
Oui, absolument. Je pense que si tout le monde commence à dire non, alors là, ça va vraiment changer quelque chose.
Che cerca di mettere in salvo l'erede, no? Allora, Adio Pizzo, en fait, c'est une association des bénévolats et qui est née un peu par hasard, je dirais, en 2004.
Aujourd'hui, on est en 2017. Votre mouvement a réussi à rallier combien d'entrepreneurs, de commerçants à l'heure actuelle?
Dans ce moment-là, on a dépassé, il y a quelques mois, le chiffre des 1000. Aujourd'hui, on a bouleversé la situation. Ce sont les commerçants qui nous cherchent pour faire partie du circuit Adio Pizzo. Ça ne suffit pas pour changer les choses, mais c'est déjà quelque chose.
Quand ils ont commencé à coller des autocollants, comment la mafia a réagi?
La mafia est restée en silence.
Il n'y a pas eu de représailles, de menaces, rien?
Non.
Mais Chiara, si je comprends bien, ça veut dire qu'il suffit de coller un autocollant sur sa porte et la mafia laisse les gens tranquilles. Alors, c'est aussi facile que ça?
Ça semble bizarre, mais c'est ça, en fait, oui. Bon, il faut dire, en fait, que la mafia, aujourd'hui, a changé de stratégie en Sicile. Et c'est pas la mafia violente qui tue dans la rue, c'est pas la mafia des années de plombe, on l'appelle comme ça en Sicile. Parce qu'en fait, la mafia, après les assassinats des juges Falcone et Borsellino en 1992, a changé de stratégie. La mafia préfère agir où elle est forte, à travers la prostitution, les armes, la drogue.
Si c'est si facile d'arrêter de payer le pizzo, pourquoi il y a encore autant de commerçants aujourd'hui qui continuent, une très très grande majorité, qui continuent à le payer alors?
Je dirais que c'est plutôt par habitude que par peur. Par exemple, une des actions en fait d'Adio Pizzo, c'est de s'adresser aux élèves des écoles, aux jeunes, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont nés, surtout les générations les plus anciennes, en fait, ils sont nés dans ces mondes dominés par la mafia. Et donc ici, il y a la perception que ça, c'est la normalité. Il faut changer cette mentalité. Peut-être que moi, je ne verrai jamais en fait, la fin du phénomène de la mafia, mais peut-être que mes petits-enfants, un jour, seront libres de la domination mafieuse.
Et ça fait plusieurs générations, évidemment, qu'on se pose la question si les petits-enfants verront la fin de la mafia. En tout cas, c'est le 25e anniversaire de l'assassinat du juge Falcone. Mmh. Vous nous le faisiez remarquer, Paola Martinez.
Oui, mais en même temps, ces reportages me font penser en fait, à la sœur qui vit aujourd'hui le Mexique, par exemple, avec les cartels. Ça ne s'appelle pas la mafia, mais on dirait la mafia du cartel, dans lequel notamment, ils ont une main mise sur tout, en fait, dans les petits villages, dans les petits producteurs, même les producteurs d'avocats.
Le secteur du tourisme et l'hôtellerie, notamment.
Aussi. Donc là, les pizzos, comme la coima, qu'on peut appeler aussi en espagnol, c'est de tous les jours. Et ceux qui refusent de payer, ils sont tué, disparu. Il n'y a pas de discussion possible. Donc, c'est un vrai fléau qui, bien entendu, avec l'océan Atlantique qui sépare, c'est tout ça, c'est un vrai danger en fait, pour tous les gens, en fait, les enfants, les petits-enfants. Et moi, j'ai entendu, je suis beaucoup l'affaire au Mexique. Et les gens, aujourd'hui, sont dans une complètement léthargie parce qu'ils ne savent pas comment s'en sortir de cette
pénalisation. Je pense que je réagis sur la fin du reportage. La dame qui dit elle a l'espoir, elle se dit bon, je ne verrai pas la fin de la mafia, mais j'espère que mes petits-enfants verront la fin. Moi, je pense que c'est un message d'espoir. Et l'autocollant, là, Adio Pizzo, et je pense qu'elle se dit là, c'est un processus. Elle ne verra pas où ça mènera, mais c'est
fait,
un processus qui peut amener à la fin de quelque chose.
En tout cas, les usagers, les consommateurs,
exactement,
les clients qui vont dans ces
commerces-là. Ça finira pas aujourd'hui, mais.
Ça pourrait devenir un nouveau label. Il y a le bio et le Adio Pizzo, finalement.
Oui. Et il y a aussi un nouveau pizzo tout moderne. C'est sur les ordinateurs. Il y a quelques jours, ça a frappé dans...
Les banques.
Oui, les banques, les gouvernements, etc. Aujourd'hui, ça m'a frappé, moi. Ben, ça fait très mal, je peux vous dire.
Bah, dites-nous ce qui vous est arrivé. Bah,
hier, j'ai voulu regarder quelque chose sur Internet et mon ordinateur s'est bloqué. Et maintenant, il y a un numéro de téléphone que je dois appeler pour avoir sans doute des instructions, savoir combien je dois payer pour récupérer mes données.
Une autre forme de raquette pour un piratage.
Mais il y a eu des informatiques
disant aux gens de ne pas payer et tout. Il faudra qu'on fasse une émission sur le sujet. En tout cas, bonne chance, Vibeck, pour retrouver vos données, vos datas, vous appartenez. Donc, vous écrivez pour le quotidien Aftenposten en Norvège. Paola Martinez, journaliste chilienne, et Penaï Traoré, journaliste à la rédaction Mandinga RFI. Vous revenez quand vous voulez, mesdames.
Avec plaisir.
Merci aussi à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néran, Hugo Violas. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera des entreprises libérées. Vous savez ce que c'est ?
Bah,
en tout cas,
on écoutera demain.
Mais je recevrai un patron, pas comme les autres, qui manage, non pas à coup de pression sur le chiffre d'affaires, mais avec un principe, un salarié épanoui et plus performant qu'un salarié fliqué, infantilisé. Je vous vois très intéressé. On saura demain si l'entreprise libérée est bidon, utopique, ou bien si c'est l'avenir. Voilà. Ne manquez pas l'émission. À demain, les voisins et les voisines.